18h à Niamey, bonsoir à tous. Vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangou et merci d'être avec nous. Voici le sommaire de cette édition. Le ministre de la République a rencontré les acteurs concernés par le Hajj pour trouver des solutions quant à la question du départ des pèlerins. 18 migrants nigériens venant de l'Algérie égarés dans le désert ont été retrouvés et conduits à l'OIM Centre d'Arlit. Dans la ville de Zender, le gouverneur de la région a annoncé hier des mesures pour interdire les cortèges lors des mariages, les transports de 3 personnes sur les motos. Il a aussi promis une vigilance accrue contre la fraude des hydrocarbures. Aujourd'hui, notre Paz Magazine se penche sur le 28e anniversaire du décès d'Alhaji Taïa. Ce serait à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver, Gungou Mamman Dantani au micro pour la présentation de cette édition. Le médiateur de la République, Maître Sirfi Ali Maïga, a rencontré hier individuellement le commissaire à l'organisation du Hajj de la Oumra, Cheikh Bele Garba, et les responsables des agences de pèlerinage. Au centre de leur échange, les préparatifs du Hajj 2016, notamment le visa et le transport des pèlerins en Terre Sainte. Le directeur général de Niger Airways a été reçu de son côté ce matin par le médiateur de la République. Depuis la décision prise en commun accord avec les autorités algériennes, l'opération de rapatriement des immigrants nigériens vivant en Algérie sans permis de séjour se poursuit. Lundi dernier, 18 migrants nigériens ont quitté de leur propre gré l'Algérie pour rentrer chez eux. Égarés, ils ont passé toute une journée en errance dans le désert. Fort heureusement, ils sont tombés sur une patrouille des forces de défense et de sécurité qui les ont conduits au poste frontalier de Assamaka avant d'être remis à l'OIM Arlit. Nous avons joint ce matin le chef du centre OIM Arlit, Inoussa Malamoussa, qui explique.
18 migrants nigériens, ils venaient déjà d'Algérie, ils ont fini déjà leur séjour là-bas pour venir chez Arlit. Donc c'est en cours de route, ils sont égarés et toute une journée en train de chercher la route. Et heureusement pour eux, ils sont tombés sur le poste frontalier d'Assamaka, ils sont déjà conduits ici. Pour ce qui est de la gestion des systèmes de migrants, ils ne sont pas les seuls acteurs. Le travail de l'OIM, c'est de conduire les gens qui sont volontaires au départ, de les amener chez eux volontairement. Ce sont ceux qui sont volontaires. Donc, vous voyez, et du coup, même quand la police nous renvoie des gens, si les gens là, on les questionne et qu'ils nous disent franchement, eux, ils ne veulent pas partir, on ne peut pas les amener. Donc, nous, c'est ça notre principe, quoi. Finalement, ces gens-là, ils m'ont dit que vraiment, ils sont volontaires. Donc, après, on a fait les protocoles nécessaires pour les faire partir chez eux, quoi.
Vous venez de suivre Inoussa Malamoussa, chef du centre OIM Arlit. Ici à Niamey, le syndicat national des conducteurs routiers voyageurs du Niger a fait ce matin une déclaration pour dénoncer les décisions unilatérales prises par l'administration de l'Écogare sur la gestion du transport. Le CNCVRN parle de tracasseries subies par leurs militants depuis quelques jours et il a donné un ultimatum de 72 heures aux responsables de l'Écogare pour mettre fin à ces manquements. Le secrétaire général du CNCVRN, Oumarou Amadou, explique.
Le PNSNCVRN exige la libération temps conditionnel de tous les véhicules objets d'immobilisation par le Sogar. 2. Rejette pour la forme et le fond les décisions unilatérales des responsables de l'Ecogar et donne ainsi un ultimatum de 72 heures aux responsables de l'Ecogar pour mettre fin à ces tracasseries et irrégularités censément créées et entretenues dans le seul objet de s'aimer. La discorde dans le rapport social entre les différents acteurs et enfin. 3. Le BNSNCF rappelle tous ses militants et tous ses militants à la mobilisation générale afin de faire face à l'arbitraire et reste l'image de la place du syndicat dans ses relations partenariales.
Propos recueillis par Moussa Hassan. D'autre part, certains riverains du fleuve s'inquiètent des travaux de construction de digues qui sont menés pour protéger la population des inondations. Pour les habitants du quartier Losagungu, par exemple, la digue telle qu'elle est en train d'être construite n'arrange pas les rizières. Souleymane Seyni Alzouma est l'un d'entre eux. Il explique au micro de Assoumana Sina.
ils ont commencé la digue de Gabougoura vers Goudel. Maintenant, c'est quoi le problème? Au lieu de mettre la digue sur le bord du grand fleuve pour que ça parte directement, ils ont isolé les rivières pour monter en haut. Alors que si ils font ça, les rivières vont devenir comme des fleuves. Donc c'est de l'eau. Si réellement ils sont venus pour aider les gens, d'abord qu'ils appellent les gens. Parce que les rivières là, ça fait plus de 100 ans que les gens travaillent là-bas. Les techniciens ne peuvent pas venir comme ça faire des choses sans pour autant consulter la population ou bien les gens qui travaillent là-bas. Ça ne va pas avantager les rivières.
Et vous, qu'est-ce que vous proposez?
À mon point de vue personnel, moi je préfère qu'on prendre la digue au bord, en bas, pour protéger les rizières.
Est-ce que de cette manière dont vous parlez, ça va protéger et les rizières et la ville?
Oui, bien sûr, ça va sauver.
Est-ce que vous avez fait part de cette inquiétude aux autorités?
Non, non. Mais il faut d'abord faire la digue en bas, pour que vraiment les rizières vont rester intactes.
C'était là les propos d'un producteur de rizières habitant du quartier Losogungu. Toujours restons à Niamey, dans le souci d'embellir la ville de Niamey, les autorités ont lancé ce lundi une opération de déguerpissement des commerçants anarchiquement installés. Cette opération concerne notamment les commerçants des alentours du Grand Marché, les revendeurs de véhicules d'occasion ou encore des panneaux publicitaires. Quelles sont les conséquences d'une telle action sur l'économie? Je vous propose de suivre l'analyse de l'économiste Soli Abdoulaye.
Ça va avoir un effet négatif sur les recettes ou l'activité économique de ces gens-là qui sont un peu partout sur les voies publiques. Parce qu'ils ne vont plus vendre leurs marchandises, ils ne vont plus avoir de l'argent, donc des recettes journalières. Ils ne vont plus donc avoir les moyens de se supporter et de supporter leur famille. Parce que d'habitude, ce n'est pas des gens qui payent la mairie quelque chose. C'est des gens qui viennent à l'improviste s'installer et puis c'est tout. Donc, il va y avoir nécessairement un impact négatif économiquement sur leur activité. Mais pour que cet impact n'ait pas lieu, il faut que les autorités municipales prennent des dispositions pour les relocaliser. Du reste, quand vous voyagez dans des pays encore plus développés que le Niger, vous voyez que ces genres d'activités, on ne peut pas les empêcher, mais seulement on les organise. Vous venez, on cherche sur une voie, quel est le lieu où on peut, parce qu'on ne peut pas laisser la voie. Il y a un adage qui dit que la nature a horreur du vide. On ne peut pas laisser le vide comme ça, mais on peut l'exploiter, et l'exploiter positivement. C'est ça qui manque.
L'économiste Soli Abdoulaye au micro de Assoumana China. Cap dans la région d'Agadez. La fête annuelle des éleveurs communément appelée Cure Salée 2016 se tiendra en septembre dans la commune rurale d'Ingal, région d'Agadez. Où en est-on des préparatifs? Tarnan Foudé Ahmed a joint le maire d'Ingal, Sidi Mohamed Maman, pour plus de détails.
On commence déjà à réfléchir sur la Cure Salée parce que déjà nous avons reçu la visite du ministre délégué de l'élevage et de l'agriculture, M. Boucha Mohamed, qui est venu nous rencontrer dans le cadre des préparatifs de la Cure Salée. Mais malheureusement, suite aux dernières pluies, là, il y a eu quelques problèmes sur les sites au niveau de la tribune, qui doit être refaite, et au niveau des sites des officiels aussi, il y a quelques réparations qui doivent être faites. Et cela ne fait pas quand même à préparer la Cure Salée. C'est du 23 au 25 septembre. Ça, c'est la date officiellement qui nous a été communiquée à Ingal.
Quelle sera la particularité de cette fête-là cette année?
Bon, la particularité de cette fête-là, nous pensons que d'abord, elle aura lieu à un moment où beaucoup des éleveurs ont été secoués, ont été atteints par les inondations. Ça sera certainement une fête particulière parce que aussi cette année, malgré toutes ces pertes-là, au couvert végétal, en tout cas, il est très bon. Donc, je pense que vraiment, il y aura une rencontre. Les gens vont échanger certainement sur l'avenir aussi de l'élevage. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est le lieu de faire une réflexion d'avenir, mais pas seulement la fête.
Vous venez de suivre Mohamed Maman, maire d'Ingal. Toujours dans la région d'Agadez, la Commission nationale des droits humains, CNDH, conduit depuis hier une mission dans la région d'Agadez. Cette mission entre dans le cadre de visites d'une semaine que le CNDH effectue sur le terrain. Visite centrée sur un certain nombre de points qui ont retenu l'attention de la Commission, à savoir la question des inondations, le phénomène migratoire et la question de l'exploitation artisanale de l'or. Ali China Amadou Koujeni, secrétaire général de la CNDH, nous fait la genèse de cette visite. Il est au micro de notre correspondant d'Agadez, Moussa Mamman.
Depuis que les fortes pluies là se sont abattues sur les populations de la région d'Agadez, il y a eu beaucoup de dégâts, des pertes en vies humaines, notamment au niveau de la commune de Dabaga, qui en était là-bas avant-hier. Là, nous avons fait des constats et relevé tous ces problèmes-là que nous allons transmettre aux autorités compétentes et aux partenaires techniques et financiers pour que Dabaga soit assisté dans ce sens-là. Et nous le ferons aussi, Inch'Allah, à Ingal. S'agissant du phénomène migratoire, il y a beaucoup de violations des droits humains qui sont exercé sur nos citoyens d'abord, mais aussi sur les citoyens des pays membres de la CEDEAO. Donc, ce phénomène a beaucoup retenu l'attention de la Commission. Nous avons fait une tournée au niveau du centre de l'OIM d'Agadez, au niveau du centre de transit d'Arlette. Alors, nous avons essayé d'échanger avec ceux qui partent et ceux qui reviennent. Nous allons dresser rapport et faire un plaidoyer. Troisième axe qui a retenu l'attention de la Commission, c'est l'exploitation traditionnelle ou artisanale de l'or. Mais nous avons été à Arlette. Il faut dire, c'est ambivalent. D'une part, c'est qu'il faut saluer la découverte de l'or. Cette découverte de l'or, comme on l'a constaté, ça a aussi des impacts négatifs.
Ali Shina Amadou Kougeni, secrétaire général de la CNDH. À Zender, le gouverneur de Zender entend réguler la question des transports dans sa région. Il a annoncé hier des mesures pour interdire les collèges, les cortèges lors des mariages, interdit aussi le transport de 3 personnes sur les motos. Enfin, il a promis une vigilance accrue contre la fraude aux hydrocarbures. Issa Moussa, gouverneur de Zender, il est au micro d'Ali Kaïta.
La fraude d'essence est interdite. Les cortèges de mariage sont interdits. Nous allons veiller en rapport avec ceux qui organisent les mariages. Ils sont responsables de ceux qui adviendraient au cas où il y a fausse note. Une moto est faite pour 2 personnes, pas de 3 personnes sur une moto. Ça là, encore, c'est interdit à partir d'aujourd'hui. Nous lançons un appel à tous ceux qui circulent sur des moyens de transport, que ce soit des motos ou des véhicules. Ils doivent se mettre en règle et ils doivent le faire en rapport même à l'immatriculation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous constatez, quand vous rentrez dans la ville, si les immatriculations étrangères ne sont pas en nombre supérieur à celles du Niger, elles s'équivalent, ce qui n'est pas normal.
Moussa, gouverneur de Zender. Direction à présent dans la région de Maradi. Il a beaucoup plu dans la région de Maradi durant la deuxième décade du mois d'août. Des précipitations abondantes et bien réparties dans le temps et l'espace ont été enregistrées. Cela a permis un bon développement des cultures dans toute la région, notamment dans la zone sud. Selon Youssoufou Moumouni, agent du service statistique agricole de l'agriculture de Maradi, certaines populations ont commencé déjà à goûter aux fruits de leur labeur. Nous l'écoutons.
Cette maturité, elle est constatée dans les départements de Madaronfa et un peu dans la zone de Agué, Sud Tessawa et Gazawa. Pour ce qui est des cultures de rente, tout évolue normalement. Le nouveau nébé est déjà sur le marché. Et ailleurs, les gens ont commencé à consommer le nébé mature qui n'est pas encore séché, qu'on appelle Jibli en Hausa. Là où il y a eu les consommations, pour ce qui est du mil, c'est plus précisément dans le département de Madaronfa. Ceux qui sont en train de prendre le Tumu, c'est les zones de Gazawa, Agué et le sud de Tessawa qui ont commencé à consommer le nouveau mil. Ce sont ceux qui n'ont pas eu de problème de semis et que les pluies ont continué normalement dans leur département.
Vous venez de suivre Issoufou Moumouni au micro de notre correspondant à Maradi, Mohamed Mamman. Studio Kalangou, nous marquons une pause.
Studio Kalangou.
Les programmes de Studio Kalangou
à Difa.
Sur la radio Afan.
100 FM.
Studio Kalangou.
18h13 à Niamey, c'est l'heure du magazine. Hier, 23 août 2016, a été commémoré le 28e anniversaire de la mort d'Alhaji Mamman Taïa, né en 1951 à Yungmi dans la région de Difa. De son vivant, feu Alhaji Taïa a marqué la musique moderne nigérienne à travers l'orchestre national de la capitale dont il était le patron. Abdoulaye Halidou Meguizo, de son nom, l'artiste John Sofa Kole, garde vivace à l'esprit les souvenirs d'Alhaji Mamman Taïa.
Alhaji Taïa, c'est l'artiste complet, quoi. C'est l'exemplaire, on peut dire. C'est de son image qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes arrivent à émerger dans la culture. Et je pense que c'est une référence. Et Taïa, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Il est mort, laissé toujours cet esprit et puis cette envie de rechercher et de sortir quelque chose de la culture nigérienne. C'est lui qui m'a offert ma première guitare électrique. Il m'a beaucoup encouragé. À tout moment, il m'appelait, il me disait, écoute, cocher, tu te décourages pas. C'est dur, mais c'est comme ça. Mais un jour, tu persévéreras. Et tout ça, c'est un signe d'encouragement. Et ça, vraiment, je le suis hyper reconnaissant. Que son âme se repose vraiment très bien.
Pour honorer sa mémoire, les artistes nigériens et le gouvernement nigérien de l'époque, appuyés par des partenaires, ont créé le Centre de formation professionnelle de musique, baptisé CFPM El Hadji Taya. Sissé Amadou, le responsable de la formation du CFPM Taya, nous parle de ce centre.
Bon, le CFPM Taya, c'est une volonté des musiciens nigériens. Lors de la première édition du prix d'Angourou qui s'est tenu ici, même au CCOG, donc les musiciens ont senti la nécessité vraiment de se faire former au niveau de la musique. Donc ils ont demandé à l'État de leur créer un cadre où ils pourront se former. Donc l'État, en collaboration avec le FEP, le Fonds européen de développement, ils ont pris l'initiative de créer le centre de formation. Ce centre, qui a vu le jour en 89, a pour mission essentielle la formation, la promotion et la recherche dans le domaine de la musique. Il y a un service chargé de la maintenance, il y a un service chargé du musée des instruments traditionnels. Et les missions de ce centre, elles sont trois. Nous avons premièrement la formation, deuxièmement nous avons la promotion et troisièmement la recherche dans le domaine de la musique. Et je crois que quand vous prenez ces trois missions, et vous avez, c'est un fourre-tout. Et vraiment, dans le domaine de la musique, quand vous avez la formation, vous avez la promotion et vous avez la recherche, je crois que c'est une grande avancée.
Mesdames, Messieurs, c'est avec ce magazine que prend fin cette édition. Merci et au revoir.